Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Chalam. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste Gérard Garouste au sujet de l'exposition Correspondance Gérard Garouste, Marc-Alain Wachnin, proposée jusqu'au 26 juin 2021 à la Galerie Templon à Paris. Bonsoir Gérard Garouste.
Bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de vous dire que l'exposition, qui a du succès, va être prolongée jusqu'au début juillet.
Ah, alors c'est une bonne nouvelle, que nous apprenons aujourd'hui. Comment vous dire, sans vous indisposer, l'honneur de votre présence sur l'antenne de Radio Shalom? Pour au moins deux raisons. Votre démarche artistique, interrogatrice, fait sens dans le grand débat des cultures qui se joue actuellement. D'abord, parce que vous êtes un artiste contemporain majeur. Ensuite, en tant qu'éclaireur de et sur la conscience juive, au travers de votre intérêt pour les textes et les penseurs juifs du XXe siècle qui les ont questionnés. Votre actualité, l'exposition présentée actuellement à la Galerie Templon, est comme une épiphanie d'une œuvre où les questionnements qu'elle suscite comptent autant, voire davantage, que la technique qui la compose. À la manière de la Hala que l'on rompt le soir du Saint-Shabbat, votre démarche nous invite à briser la croûte pour voir les enjeux qui se posent derrière la toile, comme on casse les idoles. Il faut dire que l'exposition est d'abord l'histoire d'une complicité, une complicité que vous avez nouée depuis plusieurs années avec le rabbin et philosophe Marc-Alain Wachnin. Tous deux, vous partagez la même passion de l'étude des textes sacrés du judaïsme, mais aussi de l'œuvre de Franz Kafka. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est de là que vient le titre de correspondance de l'exposition et non pas de récit épistolaire, qui met en évidence le trait d'union entre la pensée par le verbe de Marc-Alain Wachnin et votre pensée par la peinture? Est-ce que c'est ça la correspondance?
Écoutez, il y avait tellement une complicité entre Marc-Alain et moi dans notre étude. En fait, on fait une ravouta, depuis des années, on fait cette étude ensemble et... Ce terme est devenu évident, correspondance, et en plus, ça fait très littéraire. On pense aux correspondances de Chateaubriand, donc c'est tout à fait dans l'esprit. Et puis, c'est drôle parce que chez Kafka, il y a une seule fois le mot correspondance, et c'est quand il est à Paris, une correspondance de métro. C'est assez rigolo. Mais enfin bon, le plus simple, c'est que entre Marc-Alain et moi, il y a vraiment une correspondance, lui dans ses textes et moi dans ma peinture, et donc ça donne un enfant qui est cette exposition. Et puis, lui, normalement, il doit sortir un livre bientôt sur Kafka, sur tout un développement personnel qui dépasse même Kafka, qui est une attitude sur l'art contemporain, mais ça, on va peut-être en parler.
Alors, j'espère aussi qu'on le recevra pour en discuter. Donc, il y a dans cette exposition une vingtaine de tableaux, des huiles sur toile, des pastels créés, pastels de plomb ou fusains sur papier, qui est présenté au public. L'exposition juxtapose des personnages illustres comme Kafka, Scholem, Lévinas et des animaux dans une explosion de couleurs et de confettis. De Marc-Alain Wachnin, on apprend l'origine des confettis, cette pluie de petits papiers colorés qui nous tombent dessus lors des fêtes. En italien, confetti se dit coriandoli. Le mot vient des grains de la coriandre qui étaient peints. Les textes de la tradition juive nous apprennent que la manne qui a plu sur les Hébreux lors de la sortie d'Égypte était semblable à des grains blancs de coriandre. Le mot manne vient d'ailleurs de l'hébreu qui signifie « qu'est-ce que c'est ?». Alors, à l'image des enfants d'Israël qui sont devenus libres en mangeant du « qu'est-ce que c'est ?», la manne donc, l'homme deviendrait libre en posant des questions. Alors finalement, est-ce que c'est cela qui se cache derrière les confettis présents dans les tableaux de votre exposition? La définition de l'art, vue comme la perpétuelle célébration imaginaire et libre de la question.
Oui, déjà la question. Moi, en tant que peintre, vous savez, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas un exégète, je suis simplement amoureux de toutes les questions que posent les textes. Et Marc-Alain Wachnin est un philosophe. Et donc, je ne suis en tant que peintre que un metteur en scène de ces fameuses questions. Vous savez, je pense aux ambassadeurs, un très beau tableau d'Holbein qui s'appelle Les Ambassadeurs. C'est un tableau, je ne sais pas si vous voyez ce tableau. Il est très étrange parce que ça représente deux savants avec tous les objets les plus important de l'époque, de la science, etc., avec une forme qui coupe le tableau d'une manière étrange. Et en fait, c'est une anamorphose. Cette anamorphose, si on voit ce tableau de profil, représente un crâne. Holbein, ce tableau était présenté dans un palais, comme ça, au-dessus de la porte, avec l'idée de la connaissance. Et puis, en fait, quand on sort, il ne reste que la mort, une image de la mort. Mais est-ce que Holbein était lui-même un savant? Non, c'était pas un savant. C'était, par contre, il était là pour témoigner de la connaissance de l'époque. Moi, je suis là pour témoigner un petit peu des connaissances qu'on trouve dans les textes, mes petites ouvertures que j'ai sur le Talmud, et tout ce qu'on a pu faire avec Mark Alan Whiting. Donc, je suis quelqu'un qui est là pour mettre, pour une sorte de médium qui met les questions en image.
Ça fait combien de temps que vous étudiez avec Mark Alan Whiting?
Écoutez, d'abord, ça fait plus de 20 ans, je crois, au moins 30 ans que j'ai suivi ses conférences. J'ai suivi à Copernic. Et puis, on est devenus amis. Et il y a à peu près 4-5 ans, on parlait comme ça on parlait du foie gras. Et puis, il me parle du foie gras dans le Talmud. On parle d'Ahmed. Comment il s'appelait ce maître? Rabba Barbarana. Bon. On parle de ce maître-là, où il y a une petite agada sur le foie gras. Alors, on parle de ça, très amusé. Il me dit, va chercher ton livre sur les agadotes. J'avais cherché mon livre sur les agadotes. Et puis, on parle du Talmud. Et je lui dis, ça me ferait très plaisir d'étudier le Talmud, parce que c'est pas comme un livre qu'on prend, et puis on l'étudie pas tout seul. Il me dit, si tu veux être un peu initié au Talmud, si tu veux, on fait ça tous les deux. Là, pour moi, c'était une vraie chance. Et ça fait donc 2-3 ans qu'on a un peu plus, où on a travaillé on a étudié le Talmud, justement sur Rabba Barbarana, et puis petit à petit, par association, parce que vous savez, faire cette ravouta, cette étude à deux, ça part un peu dans tous les sens. Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer.
Oui.
Selon la bonne vieille formule. Et donc, on s'est égaré complètement, et puis on est tombé presque par hasard sur Kafka. Il faut dire que Mark Alan, depuis des années, travaille sur Kafka, et par association de pensée, on est tombé dans Kafka. Et là, pour moi, c'était un bonheur.
Alors, vous parlez d'études du Talmud. Évidemment, on pense à un grand maître du Talmud qui était Shushani. Plusieurs de vos tableaux le représentent, ce génie hein, aux allures de clochard qui a influencé les plus grands penseurs juifs à la libération. Elie Wiesel, bien entendu, Emmanuel Levinas, Léon Ashkenazi Manitou. Il a enseigné à l'école d'Orsay et puis il a donné des cours à des centaines, peut-être davantage, d'enfants qu'il préparait à la bar mitzvah dans ces années 1952 en France. Eh bien, sa méthode, elle reposait sur le questionnement, construction, déconstruction et reconstruction pour redéconstruire à l'infini. Et quand on écoute Mark Alan Whiting parler justement de sa méthode, et quand il dit qu'il peut rester une année sur un seul verset des textes, eh bien on pense finalement à Shushani. Alors est-ce que Shushani serait l'illustration parfaite de la problématique de votre exposition?
Bah écoutez, en effet, tout ce que vous venez de dire sur le questionnement, le questionnement, c'est vraiment le sujet de la peinture. Un bon tableau ne peut être qu'un questionnement. Vous savez, le contraire d'un bon tableau, la vulgarité d'un tableau, ça serait un tableau qui se donnerait et qui serait une réponse, c'est-à-dire ça tomberait dans l'illustration. Une illustration, se donne à voir. C'est pas érotique l'illustration, même si cette illustration est érotique, elle n'est pas fondamentale. Il n'y a pas de dévoilement. Donc, cette histoire par exemple, pour parler de Shushani, il y a quelque chose de très énigmatique, et la peinture porte cette énigme, rien que dans sa représentation. C'est-à-dire que si, en plus, vous savez, je suis un peintre figuratif, donc c'est assez, dans la mise en scène du tableau, je dis toujours, par exemple, deux tableaux mis l'un à côté de l'autre laisse sous-entendre qu'entre les deux il y a un troisième tableau qui n'est pas là et qui serait le tableau le plus important, qui donne la clé de cette mise en scène.
Alors justement, dans la mise en scène, il y a une œuvre magistrale, ce triptyque, hein, Le Banquet, où l'on voit notamment la psychanalyste et philosophe Éliane Amado-Lévy-Valency croquer au premier plan. Alors, personnellement, ceux qui me suivent savent pourquoi. Eh bien, je suis ravie que cette personnalité importante qui a été oubliée dans l'histoire des idées, eh bien, soit remise au goût du jour et notamment dans l'art pictural. Elle était considérée comme la philosophe du dialogue. Si Emmanuel Lévinas, elle était le philosophe du visage d'autrui, elle, elle était la philosophe du dialogue. Et qu'est-ce qu'elle disait dans le dialogue ? Qu'il n'y avait pas que les deux interlocuteurs qui discutaient, qui s'opposaient, qui se contredisaient. Il y avait aussi la troisième voie vers laquelle il tendait. Un peu comme cet au-delà du verset dont parlait Emmanuel Lévinas, cet ultime inachevé, toujours en quête de quelque chose. Et encore une fois, quand on voit votre exposition, on s'aperçoit que vous avez choisi des penseurs, fins connaisseurs des textes de la tradition juive, pour qui le savoir est une quête, hein, en perpétuelle quête et jamais une vérité assénée. Est-ce que ça pourrait être ça un petit peu votre définition de l'étude ?
Écoutez, moi, Buber, Martin Buber ou Gershom Scholem, par exemple, Gershom Scholem qui dit si vous voulez connaître la Kafka, si vous voulez connaître la Kabbale, lisez Kafka. Ça ne veut pas dire que moi je connais par cœur très bien l'œuvre de Gershom Scholem. Je l'ai étudié justement en lisant des livres, etc. Mais je suis là justement pour qu'on s'attarde sur Gershom Scholem, qu'on aurait justement tendance à oublier, comme Eliane, Amado Lévy-Valency, et tout d'un coup, une exposition comme ça me permet de, vis-à-vis du public, de dire, mais qui est cette femme? D'ailleurs, si vous avez remarqué, dans le tableau, elle tient un livre à la main,
oui.
c'est le seul livre, et c'est le seul texte qu'il y a dans ce triptyque, qui est quand même très grand, il fait 9 mètres de long quand même. Et le livre qu'elle tient, c'est la correspondance de Betty, la mère de Gershom Scholem, et un livre important où il est justement question de la fête de Pourim, d'un zeppelin qui survole dans les années 30 Tel Aviv, et tout ça est lié, et c'est un peu le sujet de mon triptyque, de ce grand tableau. Mais ça me permet qu'on s'attarde. C'est moi, mon domaine, c'est les images. Une image, c'est tout d'un coup, c'est pas un texte, c'est quelque chose qui s'arrête. Donc, il y a pas de nom, mais si la peinture est intéressante, on va se questionner sur justement, on va se questionner sur les personnes qui sont dans ce tableau. C'est quoi ces trois femmes vertes là? Et puis on va se questionner pourquoi ces confettis partout, les confettis et les confettis. En effet, il faut voir le tout ce que peut dire. Il y a un film dans l'exposition. Pour moi, ce film a beaucoup d'importance parce que le sujet. Vous savez, pour moi, il y a plus important que la peinture, c'est le sujet de la peinture. Faire des tableaux, c'est en plus moi ma peinture, elle est très classique dans sa forme. Par rapport au 18e, j'ai rien inventé et c'est plutôt moins bien que le 18e. Mais par contre,
vous êtes modeste.
Par contre, le sujet, il est encore en devenir. Et donc voilà.
Alors vous le disiez il y a un instant, il y a quand même un fil conducteur, et ce fil conducteur, au-delà des correspondances avec Mark-Alain Wachnin, c'est Franz Kafka. Le cœur des études et de la recherche actuelle de Mark-Alain Wachnin. Scholem disait, vous l'avez dit tout à l'heure, que la meilleure entrée en matière pour comprendre la Kabbale était de lire l'œuvre de Kafka. Et alors son œuvre, elle est toujours actuelle, et en même temps elle apparaît comme un trait d'union entre la tradition, ce qui est très ancien, le présent et la science-fiction, le futur. Est-ce que c'est pas ça finalement ce que revêt une démarche artistique ? Eh bien faire un lien entre le passé à dépasser et le présent et voir le futur.
Alors écoutez, ça, on touche à quelque chose qu'a développé justement Mark-Alain Wachnin. Et moi, en tant que peintre, ça m'intéresse beaucoup parce que on touche comment fonctionne une œuvre d'art et surtout comment la peinture, l'évolution de la peinture, c'est une manière de situer aujourd'hui l'avant-garde par rapport au classicisme. Et là, c'est tout à fait étonnant. Et il a développé, à partir de Kafka, Mark-Alain a développé cette idée du Altneue Kunst, c'est-à-dire une expression qui existe dans l'œuvre de Kafka, Altneu, c'est-à-dire ancien à nouveau. Et vous savez, en allemand, quand on colle deux mots l'un à l'autre, je parle pas allemand, mais c'est connu. Coller deux mots l'un à l'autre, ça invente un troisième mot qui, ça vient justement de la Alte Schule à Prague, qui est cette vieille ancienne nouvelle synagogue, et donc Marc Alain a développé cette idée de tout ce qui est Altneuil dans la ville de Prague, dans l'œuvre de Kafka, etc. Et là, moi, ça m'intéresse, c'est au-delà de Kafka, ça m'intéresse comme position sur l'art contemporain, parce que je trouve qu'on a dépassé cette bonne vieille querelle des anciens et des modernes, les classiques, l'avant-garde. L'avant-garde, même, ça veut plus rien dire aujourd'hui. On peut être peint tout en étant d'avant-garde, etc. Et donc, le Altneuil qui est hors du temps, comme ça, ça, c'est vraiment le sujet de mon exposition.
Alors, ça nous fait penser aussi à Altneuiland, la Terre ancienne et Terre nouvelle, le roman utopique de Theodor Herzl.
Exactement.
Voilà, et on a l'impression, alors peut-être que... Je l'imagine autrement que ce qu'il n'est, mais que cette exposition fait date, parce que justement, elle inaugure, c'est comme le geste inaugural de ce nouveau concept de Alt-New Kunst.
Eh bien, écoutez, pour moi, personnellement, je le vis un peu, cette exposition, je la vis personnellement comme un manifeste. C'est un peu un manifeste. Et moi, en tant que peintre, par rapport à ce que je faisais avant, et ce que je fais, là, je rentre dans une ère nouvelle à l'intérieur, mais il y a peut-être que moi qui pense ça.
On le perçoit aussi, si quelque chose de nouveau...
Il y a quelque chose qui s'est ouvert pour moi. Je dirais que je vais franchement m'amuser, parce que vous savez, j'ai été beaucoup critiqué, on me reproche d'être un passéiste, d'être un amoureux de la peinture, alors que c'est fini la peinture, maintenant on fait des performances, on fait l'art contemporain, travailler avec ses mains, faire un tableau, mais c'est complètement passé. Et là, justement, avec ce Altneuil Kunst, il y a, le problème n'est pas là, le problème c'est un état d'esprit qui est au-delà de la forme et qui est qu'on retrouve chez Kafka dans l'architecture, c'est quelque chose qui est...
Comme l'ancien peut féconder le nouveau et puis finalement donner naissance à une troisième voie, comme disait Eliane Amado-Lévy-Valency dans ce fameux dialogue. Il y a ce film important d'Olivier Garousse, Le Carnaval des Confettis, qui accompagne l'exposition. Donc il est projeté dans le cadre de l'exposition, mais on peut aussi le voir chez soi, sur un lien internet. Et dans ce film, vous dites que la peinture pour vous est secondaire en regard de votre quête de connaissance. Mais finalement, le public, lui, qu'est-ce qu'il pense ? Est-ce que finalement, votre peinture, elle n'est pas essentielle pour que l'idée, justement, de ces penseurs et des textes qu'ils véhiculent, eh bien, soit connue et transmise au plus grand nombre ?
Vous savez, quand on fait un tableau, je ne sais pas si les peintres raisonnent comme moi, mais moi, je me mets dans la condition d'un promeneur, d'un quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui se balade, qui va voir une exposition dans une galerie, ou qui, chez quelqu'un, regarde attentivement un tableau sur le mur. Donc il faut déjà qu'il y ait une séduction du tableau. Si le tableau est laid, s'il ne répond pas aux critères de ce promeneur, bah, il va passer à côté, etc. Mais à partir du moment où ce tableau excite sa curiosité, alors il va y avoir tout un processus, et là j'essaie d'inventer dans ma tête, parce que là je suis tout seul, mais j'essaie d'inventer cette mise en scène, ce jeu de séduction entre un autre moi-même.
Alors qui passe par des couleurs éclatantes, qui passe aussi par un bestiaire animal qui interroge l'écureuil, la martre, les ânesses, les oies grasses, etc. Et finalement, tous ont un lien avec les textes. Finalement, c'est un bestiaire biblique que vous mettez en scène.
Pas seulement, parce que il y a des choses qui sont très bibliques. Par exemple... les oies grasses, c'est dans le Talmud, ces fameuses oies grasses qui sont tellement grasses qu'elles ont perdu leurs plumes, et les graisses se répandent sur le sable, et elles se plaignent au maître qui... Non, ça c'est une Agada, et c'est drôle, c'est qu'on est devant un moment très très drôle.
Vous aviez d'ailleurs illustré Chouchani avec des oies grasses à un banquet.
Voilà, alors dans ce banquet, il y a avait Chouchani, il y avait Kafka et il y avait Borges. Borges, qui est pourtant un peu à part, mais moi je trouve que ces trois-là étaient faits pour se connaître, discuter ensemble. Et puis, là, si vous parlez de Marthe, de Quireuil, etc., là on est dans les petites nouvelles de Kafka, ces petits animaux qui ont beaucoup, beaucoup d'importance. Beaucoup, et puis, vous savez, je remarque que, alors là, j'ai un peu oublié, mais vous savez, dans le Talmud, il y a quatre animaux qui sont extrêmement importants, qui sont simplement parce qu'ils sont tout petits. Je sais qu'il y a la fourmi, parce qu'elle travaille beaucoup, c'est un peu la fable de La Fontaine.
La besogneuse,
voilà.
Oui.
Ça, je l'ai lu dans une œuvre de Salfati. Pierre-Henri Salfati, et ou en interview de lui peut-être, je sais plus. Et il y a la fourmi, il y a la sauterelle, il y a un petit rongeur comme ça, je me souviens plus duquel, et puis un quatrième. Mais on cite ces quatre animaux parce qu'ils sont tout petits et c'est eux qui on peut fonder un petit peu le monde sur l'errance de ces quatre animaux.
Alors justement, ces animaux, c'est vraiment ça l'idée d'animer, de rendre le fond et la forme.
Pourquoi
je vous dis ça? Parce que j'ai vu cette exposition et j'écoutais les gens autour de moi, qu'est-ce qu'ils en disaient. Et j'avais l'impression que les grands penseurs, les gens de lettres, les philosophes, eh bien ça paraissait comme une évidence dans votre œuvre et ils s'interrogeaient sur pourquoi la martre, pourquoi les ânesses, pourquoi les animaux. C'est ça finalement qui questionne.
Mais écoutez, c'est le principe. En effet, c'est très important. C'est vraiment encore une fois le rôle du peintre de trouver. C'est être médium au sens vraiment propre. C'est entre deux choses. Il faut être mettre en éveil comme ça. Et on n'est pas. Il ne faut pas être passif devant un tableau. Parce que là, justement, être passif, c'est d'être devant une illustration séduisante, comme ça. Mais là, il faut que ça résiste, il faut que ça pose problème. Je vous parlais tout à l'heure d'un entre-deux tableaux. Eh bien, c'est ça qui est, pour moi, très important. Et on voit ça chez Kafka. Regardez, chez Kafka, par exemple, le château de Kafka. Le château de Kafka, il s'agit d'un arpenteur qui arrive dans un village parce qu'on lui a sollicité le châtelain, l'a sollicité pour prendre des mesures, faire modifier un petit peu. Le châtelain, on le voit jamais. Le château, on le voit pas non plus. Il y a une espèce d'errance de ce monsieur K. Enfin, je sais pas si je me souviens plus si c'est K. C'est un arpenteur. L'arpenteur dans la Bible, c'est pas n'importe quoi. Et vous savez, on se trompe beaucoup quand on dit de Kafka que c'est un surréaliste parce que surréaliste, ça vient de, il n'y a pas d'interprétation, ça vient d'un rêve comme ça. Non, tout a du sens. Il y a un prophète qui parle de l'arpenteur.
Quel est le meilleur compliment qu'on peut vous faire quand on sort de l'exposition? Quand on voit une de vos œuvres, qu'est-ce que vous auriez envie qu'on se dise?
Simplement que les gens ça leur ait plu et qu'ils se posent beaucoup de questions, mais qu'ils se donnent pas des réponses. Ah oui, ça m'a plu, ça, parce que vraiment, c'est exactement ce que je voulais, c'est ça que je voulais voir. C'est tout ce qu'il faut pas que ça soit, j'ai pas fait une exposition, en même temps séduisante, j'espère, mais en même temps pas du tout reposante. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui est même s'il y a il y a beaucoup d'humour, j'espère, mais il y a quelque chose d'angoissant aussi. Parce que c'est un peu ça la vie. On s'amuse, on rit, mais derrière ça il y a des choses dures. Et chez Kafka il y a le situationnisme, il y a une certaine cabale tout ça étant, il faut le chercher, il faut
chercher les graines de son œuvre. Oui. Alors je crois savoir qu'en septembre 2022 une grande rétrospective de votre œuvre sera.
Je cherchais tout à l'heure Isaïe. Ézéchiel.
Ézéchiel. Donc en septembre 2022 il y aura une grande rétrospective de votre œuvre au Centre Pompidou. Est-ce que ce sera la suite de ce geste magistral, de ce manifeste de l'Altneue Kunst?
C'est vrai que pendant des années, j'ai fait du Altneue Kunst sans le savoir.
Oui.
Mais au Centre Pompidou, c'est une rétrospective. Donc ce n'est pas la suite de cette exposition, c'est un peu tous les premiers tableaux autour des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, après cette exposition, il y aura peut-être deux ou trois nouveaux tableaux, mais pas plus, parce que ce qui compte, c'est la rétrospective, donc c'est de voir un ensemble d'œuvres sur toutes ces années, entre les années 80 et 90, et maintenant.
Alors, quand on parle du temps aussi, on s'aperçoit qu'au niveau des dates, beaucoup de ces œuvres de l'exposition Correspondance ont été faites récemment, 2020-2021. Est-ce que c'était pénible pour vous, le confinement, ou finalement, c'est le travail normal d'un artiste?
Vous savez, je fais entre deux expositions, il se passe deux, trois ans, et tous les tableaux, je les commence en même temps, parce que pour moi, techniquement, il faut qu'il y ait temps de séchage. Alors, quand au moment où le tableau commence à sécher, je le retourne, et donc tous mes tableaux se font, ils sont tous retournés dans l'atelier, ce qui a l'avantage de les redécouvrir, et donc tout d'un coup, dans la période des signatures, ils sont tous signés à peu près dans la même période.
D'accord.
Mais ce sont des tableaux que j'ai commencé parfois il y a 2-3 ans, même parfois qui datent de l'ancienne exposition, mais qui n'étaient pas encore terminés pour l'exposition.
Cette œuvre magistrale, Le Banquet, qui est vraiment impressionnante, magnifique, combien de temps vous avez mis pour la réaliser?
J'ai dû la commencer il y a 3 ans à peu près. Il y a 3 ans, et je ne travaille pas tous les jours, justement. Même ces grands tableaux qui font, chaque panneau fait à peu près 3 mètres sur 3, et l'idée, c'est vraiment au bout de faire une séquence et puis de la retourner et puis de redécouvrir. Il faut, on se fatigue au niveau du regard. Tout d'un coup, on ne sait plus vraiment. Donc, il faut retourner. Et puis, c'est pour ça que je privilégie le regard d'Elisabeth Garouste, Elisabeth, ma femme, parce que elle a vraiment un œil neuf sur la peinture. Et sur ma peinture, et donc j'essaie qu'elle vienne le moins possible dans l'atelier pour qu'elle découvre un petit peu l'étoile.
Alors on pourrait parler des heures de cette exposition, parler d'Emmanuel Lévinas aussi en regard avec Chouchani, de toutes ces personnalités importantes qui sont croquées dans vos tableaux. Mais il y a une question classique dans cette émission pour conclure, mais néanmoins difficile. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de la Fréquence Juive de venir visiter l'exposition, qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Vous savez, pour moi, ce que j'adore dans le Talmud, c'est que justement, il y a la halakha, c'est-à-dire il y a une espèce de rigueur de la loi, mais ce halakha, c'est l'idée de marcher, c'est en chemin. Et j'ai fait des catalogues, j'ai fait un livre qui s'appelle En chemin, et pour moi, être en chemin comme ça, sans projet, vous savez, dans la Bible, plutôt dans le Talmud, Le figuier est très important parce que les fruits, il n'y a pas une saison pour les fruits, c'est à celui qui est en dessous le figuier qui décide que c'est le bon moment pour cueillir les figues. Il y a un à peu près, il y a pas de certitude, la nature des choses s'adapte un peu. Et donc l'idée, c'est d'abord se faire plaisir, se promener comme une promenade qu'on peut avoir avec une femme, et puis voilà, on discute la vie la plus simple du monde.
Merci infiniment Gérard Garouste d'avoir décrypté avec nous cette exposition Correspondance, Gérard Garouste, Marc-Alain Ouaknin. Alors moi je peux donner mon avis, hein, je l'ai visité, je vais y retourner. Je pense que c'est une exposition importante dans l'histoire même de la peinture et dans l'histoire aussi des textes mis en image, des textes de la tradition mis en image. Et évidemment on peut que recommander aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de s'y rendre. Alors vous m'avez dit elle est prolongée jusqu'à début juillet. Et elle a lieu à la Galerie Templon, située au 28 rue du Grenier Saint-Lazare à Paris, dans le 3e. Évidemment, courez-y. Bonsoir et à très bientôt, Gérard Garouste.
Bonsoir, merci.